C'était le thème savoir et mémoire. Vous vous rappelez de ça? L'objet de l'étude pour nous, c'est de transformer la mémoire en savoir. Mais s'il n'y a pas de mémoire, alors il n'y a pas de savoir. Je me souviens d'une expression de Don Flegg qui disait dans un de ses poèmes que l'esprit est comme un moulin qui tourne constamment. Mais s'il n'y a pas de blé dans le moulin, ça tourne à vide. Et quand ça tourne à vide, ça remue des nuages. Quand ça remue des nuages, c'est les rêveurs du ghetto, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi les cauchemars et la névrose de nuit. C'est-à-dire le fait de participer à un destin sans avoir de quoi l'éclairer ou sans avoir de quoi le comprendre. Alors la Torah prévoit ça tout de suite et immédiatement. La génération de la sortie d'Égypte, bon, vous avez vu, Atem Reitem. Atem Shamartem, Atem Reitem. C'est une génération privilégiée. La Torah l'appelle Dor Dea, la génération de la connaissance. Oui, vous retrouvez le terme de Dea. Et pourquoi ils avaient pu avoir la connaissance au niveau de Dea? Parce qu'ils ont eu Chochma et Bina, c'est-à-dire parce qu'ils ont vu et entendu, parce qu'ils étaient là. Alors ils pouvaient identifier, et ça c'est bien clair. C'est-à-dire la seule génération qui est capable d'identifier ce dont il s'agit dans le destin d'Israël, c'est la génération charnière, celle où classée, celle où la problématique, où les données du problème ont été vécues et identifiées. Nous avons maintenant, nous, dans notre génération, des analogies. Nous sommes la génération qui a connu l'Égypte en Allemagne, partie d'Allemagne. Nous sommes, enfin, vos parents en tout cas, pour la plupart d'entre nous, nous sommes la génération qui avons vécu cela. Vous savez, quand nous lisions à travers les siècles et jusqu'à le temps de ma jeunesse, nous lisions ces midrashim qui parlaient du sort des Hébreux en Égypte, alors on avait un peu tendance à se dire, eh bien quand même, nos maîtres du midrash, ils ont un peu l'imagination orientale, un peu l'exagération midrashique. On dit c'est des midrashim, on dit c'est des légendes, ils nous racontaient des histoires à faire hérisser les cheveux sur la tête si on devait les croire, et ces histoires-là, on a vu les Allemands le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on assiste, alors on sait que c'est vrai. Et quand on n'assiste pas, ça devient des textes, ça devient des choses incomplètes, de la mythologie. Hein? Et quand le Midrash dit que les Égyptiens prenaient les enfants juifs pour en faire des briques, dans les murs de Pitom et Ramsès, dans les murs des casemates ou des casernes ou des entrepôts qu'ils construisaient, c'est comment c'est possible? On savait que c'était vrai parce qu'on avait Torah Temet, parce qu'on sait que la Torah ne raconte pas des histoires. Mais on n'arrivait pas à identifier. Et ensuite, on a appris que les Allemands savaient faire du savon avec les Juifs, savaient faire des abat-jours. Enfin, vous savez tout ça. Bon. Et puis, deuxièmement, on a vécu l'événement de la sortie. Non seulement on a vécu la misère de l'Égypte, on a vécu l'événement de la sortie. Alors, nous sommes capables d'identifier, mais déjà, nous voyons que les enfants, enfin, les plus jeunes que nous, qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas expérimenté, qui n'ont pas identifié, s'interrogent. Et il y a les quatre sortes d'interrogations. En tout cas, vous voyez pourquoi, d'emblée, la Torah prévoit « Ki shalcha bincha maha lemo ». Je ne fais pas ici allusion aux commentaires classiques de ces textes, qui sont très importants pour nous rester des semaines. Il y a tout un monde d'enseignements philosophiques, théologiques, concernant la différence des quatre enfants, la manière dont ils s'expriment, quel est l'objet de leur interrogation, etc. Mais je voudrais m'en tenir à notre problème, c'est-à-dire la question posée quant à l'identité par rapport à sionisme universel, mais par rapport à particularisme et à universalisme. C'est un destin tellement exceptionnel qu'il est inévitable que des gosses de juifs, que des enfants de juifs, enfin, à la manière dont dans le livre de la jeune, on dit le petit d'homme, ça existe aussi le petit de juif, enfin, c'est les quatre enfants de la Gada, qu'il était inévitable qu'une interrogation soit posée sur ce destin. Et ça a commencé à déboîter, ça a commencé à dérailler quand les enfants n'ont pas eu à leur disposition des parents et qui pouvaient leur répondre, parce qu'ils n'avaient pas reconduit cette mémoire jusqu'à eux. Vous savez, quand la Gala dit, nous devons nous considérer nous-mêmes, pas seulement l'Irot et l'Asmour, mais l'Arot et l'Asmour, qui louent la Tzareim Israël. À chaque génération, nous devons nous considérer comme si c'était nous, la génération de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Mais en partie, parce que l'enfant va interroger à qui? À celui qui a assisté. Qui sait de quoi il s'agit, mais qui peut savoir de quoi il s'agit s'il n'a pas assisté? Et c'est cette mémoire qui a été reconduite de génération en génération jusqu'au moment de la génération de l'interrogation, et c'est là que nous sommes, puisqu'effectivement nous assistons à cette stupéfaction, à ce fait que après la guerre des six jours, nous en avions le pressentiment. C'est vrai que j'écris très peu, mais je me souviens d'avoir écrit cette chose-là, ça a paru dans l'information juive, après la guerre des six jours. Il y a eu un phénomène de solidarité, enfin plus que de solidarité, il y a eu un phénomène d'identification d'Israël, de la diaspora, comme étant la diaspora de la Médina d'Israël contemporaine et plus la diaspora de l'ancien État juif de Judée d'il y a 2000 ans. Vous avez compris ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, on a pris conscience, sans bavure, qu'il y avait une unanimité parfaite, sauf les deux ou trois névrosés de service que nous avons à chaque génération. Mais, parce que la Gemara dit que « En halom belis barim betelim » Il n'y a pas de rêve sans quelques détails absurdes. Freud a appris de là. Il n'y a pas de rêve sans des détails absurdes. Alors il fallait bien qu'il y ait, je ne vais pas vous citer des noms, vous les connaissez, les malheureux, mais en tout cas, il fallait bien qu'il y ait comme ça quelques voix qui soient les détails absurdes du rêve. En tout cas, le rêve était vraiment un rêve réaliste. Et oui, je ne vais pas vous citer de noms, mais il y en a un qui est sous nos bouches, puisqu'on vient de lire le Figaro littéraire, et je pense à Roger Hicot. Mais ce sont des gens qui méritent vraiment la famille, de la pitié, parce qu'il doit y avoir un drame intérieur, dans leur vie intérieure, quelque chose d'épouvantable. Enfin, refermons là la parenthèse, et nous voyons qu'il y a eu un phénomène d'identification, et pas seulement de solidarité. Et puis très rapidement, le tri a commencé, le birour a commencé. Très rapidement, on voit que l'interrogation quant à notre identité ressuscitée, en tout cas sortie de la clandestinité, se distribue des quatre manières dont parle la Haggadah. Et c'est là que nous arrivons donc au texte, que je vais vous lire de mémoire. C'est « Keneged arbarabanim divera Torah » lorsque la Torah a dit « Lorsque ton fils s'interrogera demain, oui, mahar, demain, la génération d'après, l'interrogation devait apparaître. » Et que c'est normal. « Lorsque ton fils s'interrogera demain, la Haggadah dit, elle pensait la Torah à quatre sortes d'interrogations. » La première est celle de l'enfant qu'on appelle « Chacham », de l'enfant qu'on appelle « sage ». Mais avant d'arriver à l'analyse de détails, je voudrais rappeler un commentaire que j'ai lu une fois dans une Haggadah des Chassidim, qui dit de la même manière qu'il y a quatre sortes d'enfants, il y a aussi, on l'avait oublié, il y a quatre sortes de parents. Alors vous voyez, les quatre sortes d'enfants, c'est « Chacham », le sage, Rachar, le méchant, il n'en veut pas, le méchant, le Tam, le saint, on verra sur l'identification, et le Chenoy et Arishol, celui qui ne s'est pas interrogé. Et là, il y a quatre sortes de parents, le Chacham, le Rachar, le Tam, et le Chenoy et Yodéar, le Hashiv, et celui qui ne s'est pas interrogé. C'est la catégorie la plus dangereuse, parce que va bah, abourser, enfin on verra ça. Mais, effectivement, nous en étions là, et on ne s'en rendait pas compte, qu'il y avait chez nous, du point de vue de la génération des parents, la génération père, hein, celle qui était censée tenir les clés. Chez Alna, Abicha et Agetra. C'est ça que parle la Bible. Tu veux savoir, interroge ton père et il te dira. Et s'il n'y a pas le père, bon, s'il n'y a pas le père, en général il y a le maître. Mais c'est la même chose. C'est le père qui paye quelqu'un pour être père à sa place, qui s'appelle un maître. Et il s'est avéré qu'il y avait quatre sortes de répondants, enfin de gens qui répondent. Le Hacham. Ça, c'est pas celui qui sait répondre. Alors, la chancelette, cette fidélité à notre identité ainsi décrite, pouvait passer. Voilà. Le rachat, celui qui ne voulait pas répondre, celui qui est méchant, c'est-à-dire, d'après la définition de la Haggadah, qui s'exclut de la collectivité, qui s'exclut du destin collectif. Voilà. Le tam, celui qui vit les choses et les perpétue et les reconduit, mais sans savoir les expliquer. Mais ce tam renvoie au haha. Et puis chez nous, il y a les hachis, si j'ose dire, celui qui ne sait pas répondre. Et ce sont ces pères-là qui nous ont fait le plus de mal. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas eu l'honnêteté de dire je ne sais pas répondre. Ils ont donné des réponses fausses. Ils ont donné des réponses fausses. Est-ce que vous comprenez tout ça? Et c'est là qu'est apparue toutes ces doctrines de juifs, je ne dis pas doctrine juive. Toutes ces doctrines de juifs, de gens qui se sont investis comme porte-parole de l'identité juive et qui ont enseigné des fausses identités et qui nous ont, comment dire, et qui ont brouillé, qui ont encore compliqué ce destin si compliqué à tous les points de vue. C'est la génération des masculines, c'est la génération des humanistes juifs, c'est la génération, pour reprendre les termes classiques que nous employons maintenant, c'est la génération des doctrinaires, c'est la génération des publicistes juifs, des journalistes, des romanciers. C'est la génération de tous ces faux répondants. Et bien, en tout cas, très rapidement, diagnostiquons les quatre interrogations. La première, Et sachez, Chacham, et sachez qu'elle est beaucoup plus répandue que ce qu'on croit. Grâce à Dieu, Kulanu Chacham, la lèvre. Le Chacham consiste à dire, bon, il y a quelque chose à faire, qu'y a-t-il à faire, on va le faire. Parce qu'il faut que ça s'avance, il faut que ça aboutisse. Alors, le Chacham demande, dites-nous, vous, la génération des pères, qu'est-ce que nous, les enfants, nous avons à faire. Et pourquoi cette relation de père à fils ou de fils à père est si harmonieuse? Mais parce qu'il y a déjà, à l'échelle individuelle de l'enfant, le diagnostic qu'effectivement, non seulement je ne vais pas vous faire des phrases littéraires, que le destin d'Israël, est un, de juif, est un destin tel qu'il vaut la peine d'être vécu, mais la perception que, dans le fond des choses, réussir l'histoire juive, c'est réussir l'histoire humaine. C'est ça la foi juive. Et lorsqu'un enfant d'Israël perçoit cela, alors il se tourne vers la génération qui a reçu les consignes et qui leur demande « Ma, ahoki, ahedud, ahoki, la mishpatim, asher siva, asher melokenu, et trem. » Que celui qui est notre Dieu à nous, et les pères et les fils, vous a dit, vous a ordonné à vous, les pères. C'est vous qui savez ce que nous avons à faire. Alors, dites-nous. Mais d'où vient cette facilité de la question, si vous voulez, même que la question soit heureuse? Parce qu'il y a perception que dans le destin d'Israël et dans son particularisme le plus particulariste, c'est le destin de l'humanité tout entière qui se joue, comme le raconte la Bible, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Et le Racha, alors il est facile à diagnostiquer maintenant. Vous savez, ils ne sont pas dans la même catégorie, le Hacham et le Racha, en catégorisation occidentale. Le Hacham, ça veut dire le sage, celui qui est capable de comprendre. Le Racha, ça veut dire le méchant, du point de vue de la mauvaise volonté. Le Racha peut être capable de comprendre. On ne voit pas comment Racha va avec Hacham. Maintenant, je pense que c'est un peu plus clair. Le Racha, c'est celui qui perçoit, qui perçoit cela, mais qui ne veut pas en être. Voilà, c'est ça le Racha. Et le Tam, c'est celui qui vit cela et qui n'a pas besoin. Qui n'a pas besoin d'aller à la secondarisation d'explication. Enfin, ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui. D'essayer de vous faire aujourd'hui. Je vous dis, il s'agit d'un destin collectif qui est ainsi, que nous sachions ou non, que nous le voulions ou non, que nous n'y pouvons rien. C'est notre manière d'être. Ça, c'est la manière de parler du Tao. Il dit Mazot. Mazot, ça veut dire cette histoire-là, qu'est-elle, qu'on la fasse. Mais sans avoir besoin de se secondariser pour demander aussi l'explication à un deuxième niveau. Il y a, si vous voulez, dans cette naïveté du Tao, tmimut, dans le sens profond des choses. Le simple, pas le simple d'esprit. Ce Tao-là, c'est celui qui n'a pas besoin que les choses soient expliquées au niveau de l'intelligence, parce qu'il colle tellement à son identité, c'est ça, tamim, tmimut. D'ailleurs, comme nous le verrons dans l'histoire des patriarches, c'est Jacob qui a cette mida du tam, ish tam. Et il est capable d'être ish, il l'a prouvé, c'est le seul à être capable d'être Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage. Le seul homme, enfin le premier homme, la loi, qui a eu le courage d'être Israël, c'était Jacob. Et c'est de lui que, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un héroïsme surmultiplié. De toute l'humanité entière, un homme, pour la première fois, a eu le courage d'être Israël, c'est Jacob. Il y a deux comparaisons à faire. Le premier homme, lui-même. C'est la première créature qui a eu le courage d'être homme. C'est énorme. On l'oublie, celui-là, notre premier ancêtre. Il n'a jamais très bien compris pourquoi les théologiens chrétiens lui en veulent tellement. Il faudrait le féliciter. Vous savez d'ailleurs que Adam Arishon est honoré le jour de Kippour. Dans le Seder HaAvodah, parce que, effectivement, c'est une chose inouïe. La première créature de toutes les éternités, de tous les siècles des siècles, pour parler en termes eschatologiques, a eu le courage d'accepter d'être homme. C'est fantastique, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il y a derrière. Bon, deuxièmement, Abraham, bien sûr, le nouvel Adam, mais surtout Jacob, qui a le courage d'être Israël. Et puis troisièmement, le Messie. Alors ça, c'est un courage sur multiple. Celui qui aura le courage, voilà, trop cher. Bon, alors revenons en tout cas au problème. Il ne veut pas en être. Et voilà, je crois qu'il faut diagnostiquer cela. La Haggadah a prévu cela dans un autre temps. Et elle nous dit quelle la seule stratégie possible par rapport à cela. Nous sommes entrés dans le temps du Birour, lorsqu'un juif vient, commence à dire Ma avoda azot lachem, alors il faut lui répondre lachem velolo. Et aussi, j'ai aussi été raconté, le kafa va aïka, vechoule, vechoule. c'est-à-dire celui qui vient nous dire « vous, et qu'est-ce que vous faites ?» et « vous, etc. » et ne pensons pas à Icor en particulier, mais toute cette littérature qui a commencé à se répandre avec motivation de droite, de gauche, de tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, qui a pour résultat, cette mise en accusation, cette mise en question de l'identité sioniste d'Israël, alors il faudra bien un jour faire le bilan. Et je crois que le bilan se fera inévitablement. Nous avons eu un temps de ce genre, plusieurs fois, mais en particulier, en gros plan, il y a 2000 ans. Nous avons eu un temps de ce genre il y a 2000 ans. C'était le problème de l'identité judéo-chrétienne. Et vous devez savoir, peut-être qu'on reviendra sur ce point tout à l'heure, ça vous intéresse, que les rabbins n'ont excommunié littéralement, c'est-à-dire mis en dehors du clave. Ils ont dit que vous n'êtes plus Israël, les premiers judéo-chrétiens, pas pour des affaires théologiques. Mais lorsque les premiers judéo-chrétiens ont pris parti pour Rome contre Jérusalem à l'échelle de l'identité nationale, c'est là que les rabbins sont intervenus, les rabbins du temps sont intervenus pour dire vous êtes plus juifs. Parce que finalement, en tout cas à l'origine, toute cette théologie naissante qui est devenue le christianisme, ça pouvait se réserver dans des midrashim. On aurait fait une petite secte comme ça, il y avait des midrashim à eux. J'exagère un peu, je schématise beaucoup, c'est pas si simple que ça. Mais enfin, sauf, nous en avons colmaté d'autres, comme disait le président Reynaud. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que le Herem, c'est-à-dire que est intervenu à partir du moment où les judéo-chrétiens ont pris parti pour la politique et pour les critères de la puissance du temps qui était Rome contre l'identité judéenne, contre l'identité juive, contre l'identité nationale Israël. Et je ne veux pas dire cela spécialement pour les judéo-marxistes en particulier aujourd'hui, c'est un drame, c'est un problème. Vous savez, les migrations des marxistes, on pourra résorber ça un jour. Hein? Mais lorsque l'option dans cette identité judéo-marxiste devient la même que celle des judéo-chrétiens, alors là, c'est fini, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Est-ce que je suis suffisamment clair? Oui? Voilà donc le problème et le drame du rachat. Et je crois que ça dépasse même le destin des judéo-marxistes en particulier. Et il s'agit des juifs de double appartenance. Il s'agit de tous les juifs de la diaspora qui sont candidats à ce problème, candidats à cette éventualité. À partir du moment où, à l'échelle du destin individuel, on opte, et là c'était la conclusion de l'article de Icor, il n'avait pas écrit cette semaine, enfin, lorsqu'on opte pour une autre identité politique que l'identité juive, alors on est dans le cas du rachat pour des raisons religieuses. Par conséquent, et je vous dirai mon avis là-dessus dans le débat probablement, c'est que je suppose la pire des motivations du rachat, c'est la motivation religieuse. C'est-à-dire qu'au nom de la religion, on est juif de la diaspora. C'est la pire des traîtrises, si vous voulez. Parce que c'est d'Afka Mémère. C'est à partir du moment où il y a une option nationale hors que celle d'Israël, et je crois que dans les temps où nous vivons, il faut parler en clair. Eh bien, la stratégie politique du temps des Sanhédrin de Napoléon n'est qu'une stratégie. Si, je le disais souvent, M. Brinjou m'a écouté le dire en Israël même, s'il s'agit d'un pays civilisé, puis je vous l'avais dit aussi l'année dernière à la conférence à la coopération féminine, il me semble, si nous vivons dans un pays vraiment civilisé, alors bon, ce problème de double appartenance, on peut se parler en clair les yeux dans les yeux, et ça peut se faire. Mais si nous ne sommes pas dans un pays civilisé, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir. Alors, autant tirer les conséquences le plus rapidement possible, tant qu'il y a encore des tickets de voyage dans l'agence de voyage. Et je pensais au début à ce que disait Malraux lorsqu'il a inauguré, je ne sais plus, l'année dernière, je ne sais plus quoi. J'ai vu ça en Israël, l'année dernière, il a inauguré une manifestation culturelle importante, une maison de la culture, quelque chose de ce genre. Il dit, celui qui fait partie de deux cultures perd son âme. Et il disait ça au niveau de la culture. Et c'est à plus forte raison vrai au niveau de l'identité totale. Alors nous avons été capables de cet héroïsme surmultiplié de la diaspora qui a consisté à être loyalement de double appartenance et de deux cultures. C'était vrai. Nous avons été sincères dans notre jeu messianique. C'était vrai. Vous le savez. Il n'y avait pas plus patriote allemand qu'un juif allemand. Et Il n'y a pas plus patriote français qu'un juif alsacien et, ou algérien. Et ça commence à... Ça commence à finir, je suppose, on va commencer à réfléchir. Mais nous avons été sincères. Enfin, nous avons vécu cela sincèrement, et nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir en témoigner. Et nous avons fait la guerre française, fière de l'être, dans l'armée française et sous son drapeau. Et nous avons vibré à la Marseillaise plus qu'à la Hartikva, et pourquoi pas. C'était vrai, enfin, mais nigmar. Parce que la question ayant été posée par le roi de France, il fallait bien répondre. Ce n'est possible que dans un pays de haute civilisation. Je pense qu'il y a, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays civilisés, énormément d'hommes de bonne volonté qui pressentent que demain, eh bien, tous les hommes seront de plusieurs appartenances. Tous les hommes seront de multiples appartenances, parce que déjà nous sommes entrés dans le stade de l'élaboration de l'identité humaine ultime. Et il est inévitable qu'à un certain nombre de stades, je ne sais pas si je devais vous raconter la carte d'identité de mes enfants, on n'en sortirait pas. Je vais essayer. Moi, j'ai une branche de ma famille qui vient d'Autriche, l'autre qui vient d'Espagne. Moi, je suis algérien. Ma femme, c'était Pologne et Russie. Les enfants sont israéliens. Alors oui, c'est ça un juif. Enfin, c'est un peu compliqué. S'il fallait savoir où nous devrions être chez nous dans le monde, on peut répondre qu'à Jérusalem. C'est pas possible autrement. Et ceci dit, la sincérité de filiation d'appartenance à tous est sincère. Lorsque j'essaye de faire la carte de géographie de ma vie intérieure, je suis de culture universitaire française, si peu, mais enfin quand même. Je suis de folklore arabe, comme algérien. La musique de ma prière et la musique arabe, ça est andalouse. Mais enfin, c'est à peu près la même chose. Et puis, etc., etc. Alors, s'il fallait chercher sur la carte de géographie, et d'ailleurs, les gauchistes ne se rendent pas compte que les juifs dont ils parlent, ce fameux israélien, sont plus branché sur l'identité arabe que jamais un homme politique d'Occident ne le fera. Parce que, vous comprenez, quand je parle à un gauchiste, je lui dis que moi je prie en arabe, il ne me comprend pas. Et alors, s'il fallait chercher, comment dire, sur la carte, sur la map monde, le point de chute, eh bien, ce serait dans la mer Méditerranée, à côté de la Corse. On risque de couler à pile, c'est le fait de bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage, ça s'appelle la torre. Bon. Alors, et finalement, c'est Noé Adéarichol, le quatrième, qui ne s'est pas interrogé, et la Torah a prévu, dans le temps d'urgence, at petachlo, ça veut dire se prendre l'initiative, il faut poser la question. Celui, pour tous les enfants qui ne savent pas poser la question, il faut la leur poser. At petachlo, il faut, c'est à nous de commencer. Et en fin de compte, cette histoire qui a commencé à la sortie d'Égypte, a son verset d'achèvement dans le dernier verset de la prophétie, dans Malachi, qui rappelle qu'au temps venu, Élie le prophète viendra, Élie le prophète viendra comme annonciateur, et quelle sera sa tâche, c'est de ramener le cœur des pères au cœur des enfants, et le cœur des enfants au cœur des pères. Véhéchi, Véhéot, Alvanim, Vélevanim, Alabotam. Et bien, c'était notre problème, c'est la Haggadah qui nous donne la clé, et les pères, il y a quatre sortes de pères, et les fils, il y a quatre sortes de fils. Alors, il faut faire le mariage, si vous voulez, enfin, il faut faire le lien. Et nous en sommes là. Nous en sommes là, nous sommes de nouveau en train de vivre au niveau de la gazette quotidienne, des journaux, ce dont la Bible avait parlé dans ce problème. Alors je vous schématise l'articulation de ces trois points. Premièrement, Israël, je vais dire des banalités maintenant, n'est pas une nation comme les autres. Ça, vous avez compris pourquoi. Le point de jonction entre universalisme et particularisme, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle sionisme. Même si les sionistes ne le savent pas, c'est comme ça. Et puis, en tout cas, si pas tous ne le savent. Deuxièmement, il est tout à fait normal que la question ait à se poser quant à notre identité, surtout dans les moments névralgiques. Il est tout à fait normal que nous ayons cet éventail de quatre sortes de filiations, celle du Haram, celle du Racha, celle du Tam et celle du Shenoy de Harishol. Mais la solution, au fond, à l'échelle collective, n'appartient à personne, ça se fait, ça se fera. Le problème, c'est à l'échelle individuelle qui en fera. Et bien entendu, nous nous souhaitons d'en être tous.
J'ai une question hors sujet, s'il vous plaît, c'est musicale. C'est comme il a dit un jour que les chants andalous étaient d'origine synagogale pré-islamique. Et comme vous avez dit tout à l'heure que les chants arabes
Écoutez, c'était un point un peu périphérique, je réponds très très rapidement, c'est une question assez compliquée. Ce genre de musique-là vient de l'Inde, en réalité. Il a été véhiculé. C'est une musique qui a été véhiculée, si j'ose dire, par les caravanes, qui est arrivée jusqu'à l'Andalousie, qui était le pays des Vandales, comme vous savez, là, ou Andalousie. Mais il n'y a pas de doute que ça a été mis en forme dans la Dalousie arabe. C'est pas la musique arabe, si vous voulez, jordanienne, yéménite, ou je dis pas berbère, c'est autre chose, ou syrienne, ou irakienne, c'est la musique arabe, c'est le maqam, c'est autre chose. Mais c'est la musique andalouse, oui, mais elle est d'architecture, je ne sais plus comment on dit ça en français, d'architecture intérieure arabe, il n'y a pas de...
Je peux dire à ce sujet, un souvenir personnel, lorsqu'on sortait la Torah dans les synagogues en Égypte, « Romemou Hachem Elokeinu » se chantait sur l'air de l'hymne national égyptien.
Oui, mais justement, je ne vois pas pourquoi. C'est nous qui répondons alors que nous avons M. Brunswick avec nous.
Est-ce que vous répondez entre le judéo-chrétien, donc l'Israël islamique? Quelles sont ces pensées de relation entre le judéo-chrétien et l'israélien et l'islamique?
Je n'ai pas très bien compris la question, je voulais expliquer. Qui a posé la question?
Thomas.
Oui, essayez d'expliquer, mais je ne sais pas.
Quelles sont vos pensées entre la relation judéo-chrétien et israélien-islamique, si vous voulez mieux, arabe, si vous voulez mieux.
Mais à quoi vous pensez? À quel problème vous pensez?
La relation, si vous voulez mieux. Entre les juifs et les chrétiens et entre les juifs et les arabes.
Oui. Bon, d'accord.
Élevez-vous, s'il vous plaît.
Vous avez terminé en disant, enfin, la dernière phrase que j'ai reçue, que de toute façon, sur le plan collectif, ça se fera. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se fera sur le plan collectif, et que, ne suppose que des problèmes individuels. Alors, est-ce que je voulais savoir si ce qui doit se faire sur le plan collectif se fera malgré. Indépendamment de la réponse que donnera chaque individu.
Bien, d'accord, oui. Oui, c'est une bonne question.
Je me permets d'aller sur une question. Une question que je ne suis plus m'instruire et pas conseiller. Pourquoi je me permets de poser une question? L'identification du christianisme et des Ahus, n'est-ce pas?
On reprendra la question.
Je ne sais pas enfin, si la chose est si simple. Je sais très bien qu'il y a des traditions dans ce sens, mais est-ce que vraiment ceci ne pose pas un problème? Cette identification n'est pas immédiate, n'est-ce pas? Je pense que c'est une interprétation qui effectivement est admise, je sais, dans certaines traditions. Je ne sais pas très bien ce qu'elle vaut. Permettez une deuxième question, je ne la pose pas.